France Inter.
J'ai voulu écrire ce livre pour réfléchir sur les raisons profondes qui m'ont conduit à me convertir et les processus difficiles de la déconversion. Mais moi, je n'ai pas voulu accuser des gens qui m'ont trompé. J'ai voulu dire pourquoi moi, je me suis trompé. Pom, 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 pom. Je suis resté d'abord un être infantile qui aime beaucoup le jeu, un reste adolescent qui, comme je vous l'ai dit, a gardé ses aspirations sans illusion, un petit peu adulte parce que j'ai pris quelque sens de la responsabilité, un peu de sagesse, mais pas trop, parce que je sais qu'il y a sagesse pure pour mélanger toujours la raison et la passion, la sagesse et la folie.
Ce soir, dernier épisode de notre semaine spéciale consacrée à Edgar Morin. Vous avez peut-être entendu les 4 épisodes précédents, 2 parties dans ses émissions d'Heure Bleue, une seconde partie où Edgar Morin nous raconte son itinéraire, ses engagements politiques, idéologiques, intellectuels, mais aussi poétiques, et en première partie, lecture par Nicolas Bouchaud d'un texte d'Edgar Morin publié en 1959 et republié ces jours-ci, intitulé « Autocritique ». Ce soir, chapitre 5, intitulé « Le tribunal ». Nous sommes à la fin de l'histoire de la trahison qu'a ressenti Edgar Morin par rapport à ses croyances au Parti communiste. Conclusion, constat et jugement critique sur lui-même et ses engagements par un jeune homme de 97 ans.
You may say
Tribunal. Ai-je voulu me justifier ? En tout cas, je ne regrette pas une expérience qui s'est incorporée à mon propre être. Mais si je suis presque heureux de ce voyage aux grandes profondeurs, si je dis presque même qu'on ne peut comprendre certains secrets de Polichinelle que si on en est revenu, je ne peux en aucun cas me donner raison. Pour un intellectuel révolutionnaire, le passage par le stalinisme n'était nullement obligatoire. Je regrette d'avoir subi la fascination. Je regrette d'avoir glissé sur la plus forte pente. Je regrette d'avoir si longtemps laissé rouiller certains rouages élémentaires de l'intelligence. Je regrette de n'avoir pas été, non pas certes parmi les douteux progressistes ou les petits bourgeois satisfaits, mais parmi les francs-tireurs. Bien sûr, je n'ai pas évité la double tentation de l'auto-accusation et de l'auto-apologie. Je n'ai pas évité la complaisance, qu'elle soit justificative ou masochiste. Je n'ai pas évité quelques agressions sur papier. Comme on s'amusait à dire dans le parti, il fait son autocritique. Contre qui ? Ai-je été sincère ? La sincérité n'est pas une pure flamme qui jaillit de l'esprit. La volonté d'être sincère, quand il s'agit d'être sincère sur soi, se perd toujours dans les labyrinthes et doubles fonds intérieurs. La volonté délibérée d'être sincère ne s'affirme que dans certaines conditions particulières et instables d'orgueil et de masochisme. Si elle peut s'élever au-dessus de l'étrange complexe qui la fait naître, elle aboutit en fin de compte à nouveau sur l'orgueil et le masochisme. La sincérité ne peut être pure qu'à un moment particulier de combustion entre les gaz qui la nourrissent et la fumée qui s'en dégage. Bien sûr, je n'ai pas parlé de mes zones d'ombre, de folie, de misère, de rêves incroyables, de bêtises affreuses. L'histoire mondiale est le tribunal suprême, disait Hegel. Mais c'est un tribunal qui a toutes les faiblesses et les duretés d'un tribunal humain. C'est dans un tout autre sens que l'histoire nous juge. Elle nous sous-pèse individuellement. Que reste-t-il de vous ? Êtes-vous devenu poreux, rongé, squameux, spongieux ? Vous êtes-vous trempé, durci, blindé, effrité ? Avez-vous résisté à la lente dérive de l'âge ? Avez-vous gagné les secrets de la maturité sans perdre les secrets de l'adolescence ? Qu'avez-vous appris ? Que savez-vous maintenant de l'homme et de la nature ? Je n'ai pas cessé de croire qu'il faut sans relâche s'adresser à l'homme, nier quelque chose dans l'homme, révéler quelque chose en l'homme. Pour le reste, je ne sais pas encore répondre. Je peux simplement retracer ma voie, analogue et différente, parmi celles de tant d'autres que n'avaient pas cessé de travailler l'esprit souterrain sous l'assurance triomphale, d'autres que la vie allait éparpiller à tous les horizons de la croyance et du désespoir, compagnons, camarades, militants, frères qui voulions changer la vie. Préface à la nouvelle édition, 2012. J'ai écrit Autocritique en 1958, quelques années après ma déconversion, 1949-1951, et fort de l'expérience acquise par le rapport Khrouchtchev, l'octobre polonais, la révolution hongroise, la guerre d'Algérie, le putsch d'Alger, la mort de la 4ème République et l'accession au pouvoir de De Gaulle.
Je veux dire combien je suis heureux de me trouver ce matin chez vous, à Sisi Ouzou, dans ce noble et beau pays de Kabylie. Tous, nous sentons combien, après tant d'épreuves, il est nécessaire que l'Algérie retrouve la paix.
Ce livre peut être lu à trois niveaux. Le premier niveau est celui du récit, aussi véridique que possible, d'un jeune esprit qui, après toutes les espérances vécues de l'avant-guerre, retrouve l'espoir avec la résistance de Moscou, la conjonction début décembre 1941 de la première victoire soviétique, de la première défaite nazie sur le front russe et de l'entrée quasi simultanée de l'énorme puissance des États-Unis dans une guerre désormais mondialisée. Simultanément, j'entre en résistance et en communisme. Jusqu'à la libération, j'ai en sous-marin, c'est-à-dire en tant que membre secret du parti au sein d'un mouvement de résistance gaulliste, vécu dans la double adhésion au patriotisme agissant pour la libération du sol national et à l'internationalisme communiste agissant pour la libération de toute l'humanité. Je donne très peu d'anecdotes dans ce livre sur les péripéties de ma vie clandestine, les chances qui m'ont fait échapper à de nombreuses reprises à l'arrestation. Il n'y a rien sur ma vie quotidienne sous l'occupation, mais le souffle épique et tragique de l'époque anime les descriptions que je fais de ma psychologie durant cette période. Le deuxième niveau de ce livre est celui d'une expérience anthropologique. Ma double vie dans le parti et hors du parti m'a montré comment un être apparemment débonnaire, devenu cadre ou responsable dans le parti, se transformait en inquisiteur impitoyable, fanatique, obtus. La même personne, une fois exclue ou déconvertie, redevenait un être débonnaire. Le permanent ou fonctionnaire du parti n'a pas seulement une fonction, il est possédé de l'intérieur par cette entité transcendante qu'est le parti et qui parle à travers sa bouche. Le parti te demande était l'équivalent à peine laïcisé du Dieu le veut des croisés. Oui, j'ai vu le doux philosophe fumant sa pipe dire entre deux bouffées à l'évocation des bombes nucléaires que pourrait être amené à utiliser l'Union soviétique au cours de l'ultime guerre mondiale. Ça peut causer quelques centaines de millions de morts, avec la paisible résignation de celui qui sait qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. J'ai compris que s'ils avaient eu le pouvoir, tous ceux dont l'esprit avait été enstalinisé auraient déclenché sans frémir massacres, tortures et goulags, comme le firent leurs semblables en URSS. Aussi, je ne regrette en rien l'expérience anthropologique de la possession que ma qualité d'apparatchik marginal dans les années 1945-1949 m'a permis de connaître concrètement. Enfin, mon livre peut et doit se lire à un troisième niveau qui dépasse de toutes parts l'expérience du communisme stalinien et qui est celui de la rationalité. Je sais fort bien que la rationalité glacée, sans émotion ni passion, est une sorte de délire. Je sais fort bien que le problème humain de la connaissance et de la conscience se joue dans une dialectique permanente entre raison et passion. La passion sans raison devient folie, la raison sans passion est la forme glacée de la folie. Cela devant être dit, mon expérience vaut parce que tous les arguments rationnels qui m'ont incité à adhérer au communisme ont camouflé une adhésion en fait mystique et religieuse. Je me suis persuadé que la ruse hegelienne de la raison utilisait la personnalité impitoyable de Staline pour implanter le communisme en URSS et le répandre dans le monde. Je me suis persuadé qu'il fallait dédaigner les belles âmes et les grands cœurs qui ne voyaient pas les nécessités concrètes de se salir les mains et je me suis sottement détourné du message de Camus après la guerre. Aujourd'hui, je sais que se moquer des belles âmes et des grands cœurs, c'est justifier de belles saloperies. Je croyais qu'était moral tout ce qui servait la révolution, jusqu'à ce que la révolte morale me fasse vomir cette morale justifiant les pires immoralités. Préface à l'édition de 1991.
Nous nous fixons par exemple sur le problème franco-allemand comme nous nous fixons sur le problème franco-algérien, alors que le problème, tout le monde sait, est le problème russo-américain. Mais le problème russo-américain, et là nous revenons à l'Algérie, va être dépassé lui-même avant très peu, ça ne sera plus un choc d'empire, nous assisterons à un choc de civilisation, et nous voyons dans le monde entier les civilisations colonisées surgir peu à peu et se dresser contre les civilisations colonisatrices.
Après l'année 1989-1990, le communisme n'a pas été dépassé. Il est devenu du passé. Le communisme, tel qu'il s'est incarné dans les partis communistes, dans la puissance de l'URSS, dans les expériences chinoises, vietnamiennes, cubaines et autres, ne concerne plus notre présent. La menace du totalitarisme sous la doctrine marxiste-léniniste, sous la forme stalinistique, brejnevienne, etc., et sous les espèces d'un empire disposant d'un énorme complexe militaro-industriel, ne pèse plus sur notre futur. Désormais, le communisme s'identifie à l'essence de ce XXe siècle, né en 1914 et agonisant en 1990. Mais justement, cela lui redonne vie, la vie de l'histoire, la vie de notre histoire. Aujourd'hui, c'est terminé la phase monstrueuse d'une gigantesque aventure pour changer le monde. Un appareil monopolisant tout pouvoir et opprimant les peuples, un système incapable d'inventer une culture socialiste, une économie socialiste, voire le moindre objet socialiste. mais nous pouvons et devons voir aussi l'épopée grandiose des débuts du XXe siècle, l'espérance apocalyptique portée par des militants ardents venus de toutes les classes de la société et qui, dans la phase stalinienne ultime, étaient capables de sacrifier non seulement leur vie, mais aussi leur honneur. Nous pouvons et devons voir la foi infinie dans le Messie historique incarné par le prolétariat, puis par le parti prétendu du prolétariat. L'aventure extraordinaire d'une croyance qui s'est crue scientifique, rationnelle, laïque, et qui fut en fait la grande religion de l'ère moderne, celle du salut terrestre, issue de toutes les aspirations bafouées par nos sociétés et nourrie de tous les idéaux de la culture européenne.
Informations, bonsoir.
Bonsoir, historique, l'Allemagne de l'Est annonce ce soir l'ouverture totale de ses frontières pour les candidats à l'émigration avec la RFA et Berlin-Ouest, tant pour les candidats à l'exil que pour les voyages privés. La mesure est effective immédiatement. L'un des membres du nouveau bureau politique vient de l'annoncer. En clair, c'est la fin du mur de Berlin qui est annoncée ce soir.
Désormais, sans cesser de me mobiliser contre les autres oppressions, j'allais me mobiliser principalement contre ce mensonge énorme dont les énormes tentacules plongeant dans des millions de cerveaux, ont mis tant de temps à régresser, faiblir, jusqu'à la désintégration de 1989-1990. Cette expérience clé du siècle fut, à travers mon expérience personnelle de militant et petit apparatchik, une expérience non seulement psychologique, mais anthropologique, qui, si on la considère sérieusement, apprend beaucoup sur l'être humain. J'ai vécu dans le parti, sous l'appareil, et par la suite, je n'ai pas cessé de réfléchir sur cet étonnant pouvoir du parti qui peut faire du même être humain un héros ou un monstre, un martyr ou un bourreau. J'ai vu que le parti était une sorte d'être à la fois mythique et réel, possédant littéralement l'esprit de ses permanents et celui de ceux qui avaient foi en lui. Je savais déjà que chaque humain est multiple et complexe et que les ignobles sont ceux chez qui, selon les circonstances ou hasards de l'existence, l'ignominie prend les commandes de la personnalité. Ainsi, le parti, qui attirait à lui souvent les meilleurs, ceux qui voulaient lutter contre l'exploitation et la domination, ceux qui ressentaient le grand appel de la fraternité, sélectionnait, avec d'heureuses exceptions, à l'intérieur de son organisation, ce que chacun avait de pire, et il développait en chacun ce pire. Il opérait chez ceux dont il prenait possession d'étonnantes mutations de personnalité, voire notamment ce que j'ai écrit sur Pierre Courtade, dont le souvenir ne cesse de me hanter. Mais j'ai vu aussi que de terribles Torquemada et Torquemadette redevenaient souvent hors du parti, rejetés par lui, des quidam débonnaires et conviviaux. Quelle histoire! Je n'ai pas tout raconté de ce que j'ai vécu et connu. J'ai peut-être à tort gommé bien des péripéties aventureuses ou atroces. C'est que je voulais privilégier les problèmes qui m'avaient déterminé à faire l'examen autocritique. Comment on se convertit au communisme? Dans mon cas, toute ma culture politique antérieure faisait que j'avais toutes les connaissances requises pour vomir le stalinisme. Il a fallu l'attaque contre l'URSS par l'armée hitlérienne en 1941, la guerre devenue mondiale, mon désir adolescent de vouer ma vie à une grande cause et de risquer la mort, pour que je me donne les raisons de croire en l'avenir libérateur de l'URSS et que je trouve le courage pour participer à ce que je croyais être la lutte cosmique pour le salut de l'humanité. En écrivant ce livre, j'ai voulu retrouver les processus mentaux et les systèmes de rationalisation qui m'ont porté à adhérer rationnellement à ce qui auparavant me semblait délirant et répugnant. J'ai voulu comprendre comment un nouveau système de pensée se forme, se blinde, avec une immunologie qui lui permet de résister aux arguments et aux faits qui le contredisent. Du reste, des systèmes de rationalisation de même ordre ont fonctionné pour des amis pacifistes et socialistes devenus collaborateurs. L'espoir que le nazisme serait dépassé par sa propre victoire et, contrairement à son idéologie nationaliste, établirait un socialisme à l'échelle de l'Europe. Beaucoup de ceux qui ont dérivé dans l'acceptation des pires ignominies nazies, voire la participation à ces ignominies, comme beaucoup de mes compagnons, ont dérivé dans l'acceptation des ignominies staliniennes, voire la participation à ces ignominies. Comment on vit au sein du parti et surtout de l'appareil ? C'est un univers hiérarchique et sacré, aussi extraordinaire que celui de l'Église catholique, avec ses rites, ses fêtes, ses ferveurs, ses diables, ses mœurs, ses hypocrisies, ses secrets, ses souterrains. Comment l'appareil happe, transforme, transfigure, défigure, broie, rejette les individus. Cela, je ne l'ai jamais oublié et ne veux jamais oublier. bien qu'elle n'ait duré que 8 ans et ne couvre qu'une partie désormais mineure et lointaine de ma vie, c'est l'expérience la plus profonde et la plus présente que j'ai vécue. Comment on se déconvertit? Pourquoi? Comment apparaît ou réapparaît le doute? Comment le système rationalisateur commence à se lézarder? Comment s'opère le combat de la critique, de la révolte, contre la puissance idéologique religieuse qui a colonisé notre esprit et le possède? Comment le noyau dur de la foi résiste jusqu'au moment ultime de sa désintégration? Ce passé-là ne ressuscitera pas, mais il concerne notre futur. Deux totalitarismes sont morts, l'un écrasé par les bombes, l'autre désintégré par implosion interne. Mais qui nous dit que ne naîtra pas un troisième totalitarisme, d'un type nouveau, faisant appel aux mêmes aspirations et espérances, avec un appareil disposant de pouvoirs également sacralisés, se servant d'une idée, un mythe colonisant, possédant à nouveau les esprits? Même en dehors de cette hypothèse, rien ne nous dit que l'illusion, le mensonge, l'erreur sont désormais vaincus. Au contraire, nous sommes dans l'incapacité d'en détecter les nouvelles manifestations et les nouvelles menaces, justement parce que nous n'avons pas encore compris celles du passé. Comme l'a dit Santayana, ceux qui ne peuvent se rappeler l'expérience sont condamnés à la répéter. L'expérience est fragile. Tant d'anciens communistes qui sont restés au parti plus que moi et qui ont occupé des fonctions vraiment importantes, à la différence de moi, ont oublié, refoulé ou veulent seulement se souvenir qu'ils ont été trompés, oubliant l'essentiel, qu'ils se sont trompés. Avoir vécu une expérience ne suffit pas pour que cette expérience devienne de l'expérience. Il faut sans cesse la régénérer et la reméditer. Si nous transformons l'expérience en conscience, nous sommes prêts pour un nouveau commencement. En ce qui me concerne, cette autocritique m'a aidé à comprendre. Se comprendre, c'est déjà un pas pour comprendre les autres. Nous avons tous besoin de comprendre comment peuvent s'opérer les dérives insensibles qui nous entraînent vers le contraire de ce qui a suscité notre croyance. Nous devons comprendre comment nous risquons sans cesse le mensonge à nous-mêmes. Nous devons comprendre les processus de rationalisation qui justifient de façon apparemment logique ce qui nous rend aveugles à la réalité empirique. Nous devons mieux comprendre les autres pour mieux devenir vigilants à l'égard de nous-mêmes. Moi, j'ai tiré de tant d'inhumanité une leçon d'humanité, de tant de fanatisme une leçon de vraie tolérance, de tant d'erreurs une leçon de vigilance intellectuelle permanente, de tant de mensonges une leçon de respect infini pour la vérité. Ce que j'ai acquis et conservé de l'écriture d'autocritique, c'est le bien intellectuel le plus précieux dont je crois disposer à tout jamais. C'est la capacité autocritique qui permet de lutter contre l'auto-intoxication intellectuelle. C'est le refus des injures ad hominem qui prennent valeur d'argument pour l'insulteur. C'est la reconnaissance des ambivalences et des complexités. C'est la défiance à l'idée de devenir une machine politique à justifier ou à condamner. C'est la conscience que les idées ennemies ont une part de vérité, parfois devenue folle. J'ai appris aussi à ne plus me taire devant un déni de justice ou de vérité. Ainsi, communiste, bien que conscient que les trotskistes n'étaient pas des traîtres, ni des agents nazis, je me taisais et ne fréquentais qu'en privé des amis comme Jean-René Chauvin. J'ai gardé la honte de ces silences et c'est pourquoi j'ai défendu mes alliages contre les calomnies du FLN et des intellectuels français de gauche dénonçant en lui un collaborateur du colonialisme français et un traître. C'est le même souci qui me pousse à défendre la cause des Palestiniens opprimés et bafoués et humiliés par les représentants en Israël d'un peuple qui fut millénairement opprimé, bafoué et humilié. L'expérience d'autocritique m'a restitué à la complexité de la vie et des choses humaines, y compris politiques, et m'a poussé à développer méthodologiquement et épistémologiquement la pensée complexe. Autocritique vaut contre tous les sectarismes, tous les dogmatismes, toutes les rationalisations qui sont le contraire de la rationalité, contre toutes les visions unilatérales et mutilées. Il vaut pour la compréhension des complexités et faiblesses humaines. Ce livre est témoin des moments paroxystiques du XXe siècle. Il est témoin d'une épopée fabuleuse, magnifique, immonde, atroce et dérisoire, celle du communisme. Il est témoin du pouvoir des entités surhumaines qui, bien que produites par l'esprit humain, sont capables de subjuguer et posséder l'esprit humain. Il est témoin de la lutte permanente et difficile d'une connaissance pertinente, c'est-à-dire complexe. Ce livre, je l'aime. Il m'a aidé plus qu'aucun autre de mes livres. Edgar Morin.
All the leaves are brown and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be saving more if I was in L.A. California dreaming on such a winter's day. Went to a church yesterday. I stopped along the way. Begin to pray. You know the preacher digs a call, 'cause he knows I'm gonna stay. He knows I'm gonna stay. I told him so. California dreaming.
Cinquième et dernière station avec vous dans ce feuilleton depuis le début de la semaine, Edgar Morin, où chaque début d'émission est consacré à la lecture par Nicolas Bouchaud de ce texte autocritique qui est republié dans une collection qui s'intitule « Bouquin » chez Robert Laffont. Ce texte que vous avez préfacé à plusieurs reprises et qui a été préfacé par vous en 2012, et il reste toujours aussi contemporain parce qu'il nous permet de rester éveillés, il nous permet de rester citoyens, il nous permet de rester en alerte. Donc texte ultra contemporain à lire et à relire, y compris par les jeunes générations qui n'ont pas connu ces moments où il y avait les deux blocs, où il y avait d'un côté les communistes, de l'autre côté la droite, etc. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on vit dans un paysage politique un peu pulvérisé, où la notion même d'appartenance à un parti politique paraît désuète. Comment vivez-vous cette espèce de monde d'incertitude ? J'ai l'impression que la relecture de Autocritique permet de réasseoir des principes fondamentaux de la démocratie.
Je l'espère, mais je crois que je vis ce monde avec, disons, l'expérience de l'incertitude, de le surgissement de l'inattendu et de l'improbable. J'ai vécu l'inattendu, je vous ai parlé une fois précédente de l'inattendu qui a été la résistance soviétique, je peux dire qu'un autre inattendu a été Stalingrad. Après, les événements sont plus probables, mais vous savez, la guerre aurait dû se terminer plus tôt s'il n'y avait pas eu cette résistance tellement acharnée de l'Allemagne. Le bloc des Alliés s'est disloqué, c'était peut-être prévisible, mais ça se fait d'une façon tout à fait étonnante. Et puis, je dois dire que la guerre d'Algérie elle-même, dans l'histoire humaine, et notamment dans celle que j'ai vécue, arrive l'inattendu, l'incertain, l'improbable. Et je pense qu'il va arriver encore, bon ou mauvais, j'en sais rien, mais il peut arriver. Donc, si vous voulez, je ne pense pas que on est toujours dans le fait accompli et qu'il faut continuer dans le sens qu'on croit le bon. Je vis tout ceci sans désespoir et sans espoir illusoire. D'ailleurs, quand on dit l'espoir, c'est une possibilité, c'est jamais une certitude. Bon, je suis prêt, si la régression continue, à vivre dans une oasis de fraternité et de résistance, en attendant des temps meilleurs, à continuer à sauvegarder les valeurs essentielles auxquelles je crois. L'expérience de ma vie m'enseigne à affronter les temps difficiles que nous allons vivre, et je sais que je ne serai pas seul. C'est tonique de résister. Je dis que je ne me gargarise pas d'espérance, mais il y a quelque chose qu'il faut qu'on défende. Il faut qu'on continue dans le Parti des Roses. C'est ça ma conviction et c'est ça qui me maintient en forme.
Alors le Parti des Roses, il passe aussi par une résistance à ce qui est hélas prévisible. Et ce qui est prévisible, c'est le fait que nous, les hommes, en ce moment même, nous continuons à porter atteinte à la nature. Vous avez été un visionnaire aussi, Edgar Morin, dans ce domaine. Vous êtes toujours très engagé pour la défense de la nature, de l'environnement, de l'écologie. Il n'y a pas si longtemps, lors d'un colloque à Bordeaux, vous avez lancé un appel pour que, justement, nous portions souci, protection à ce qui nous est complètement indispensable et consubstantiel. Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, fin 2018, alors que toutes les informations nous parviennent par les biais des plus grands scientifiques, des plus grandes revues les plus rigoureuses, nous savons partout que nous continuons à porter atteinte à la planète, et ce de manière très 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 expansive et dramatiquement agressive, et ça continue.
C'est les lenteurs de la prise de conscience. Je me souviens très bien que j'avais la chance d'être en Californie à ce moment-là. Je connaissais les biologistes, écologistes qui m'ont donné l'alerte. Je me souviens d'avoir lu un article sur la mort de l'océan de Ehrlich, qui est d'une façon peut-être prématurée, mais annonçait ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire la dégradation de la vie dans les océans, pas seulement à cause de la surpêche, mais aussi à cause de toutes les déjections et des pollutions. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai pris conscience à ce moment-là des deux messages fondamentaux qui étaient délivrés. Le premier, c'est celui donc des dangers sur la biosphère, et le deuxième, c'était d'Ivan Illich sur les besoins d'une civilisation qui perdait la convivialité, l'écologie. Donc je me souviens très bien que j'ai fait une conférence à mon retour en France, l'an 1 de l'ère écologique. Il y avait une résistance. D'abord, pourquoi toute notre éducation est fondée sur la séparation de l'homme avec la nature. La Bible enseigne que l'homme est fait à l'image de Dieu, et les animaux autrement. Paul annonce que les hommes peuvent être sauvés, mais pas ni les chiens ni les chats. Descartes annonce que les animaux n'ont pas d'âme, sont des machines. On a été amené à dissocier totalement, nous, de la nature, bien qu'on ait une nature animale en nous. Sans la végétation, sans les animaux, nous n'aurions plus de nourriture. Que la vie de la nature est nécessaire à notre vie. Il fallait lutter contre toute une empreinte culturelle terrible de la civilisation judéo-christiano-occidentale. D'autre part, quand il y avait des alertes comme Tchernobyl, il y avait une émotion aussitôt calmée par le retour au quotidien. Même si vous voulez, le réchauffement climatique qui s'est manifesté l'été dernier par des phénomènes tout à fait inattendus, on l'a senti, puis après on a oublié. Et dès qu'il y a une vague de froid, on oublie ce réchauffement. Alors, donc, c'est très difficile de la prise de conscience, d'abord par les citoyens, ensuite par les États, parce que les États souverains hésitent à prendre des mesures drastiques, et que certains États pensent pouvoir jouir du réchauffement climatique. Par exemple, la Sibérie aura des vignes, des palmiers, des choses comme ça. Bon. Alors, ce qui manque, moi je crois aussi d'important, c'est que bien que ce soit la mondialisation qui a créé une communauté de destin pour tous les humains où qu'ils soient, cette mondialisation a créé de telles angoisses et de tels replis culturels qu'au lieu de prendre conscience du destin commun, on s'enferme sur la conscience de son ethnie, de sa nation, de sa religion. Autrement dit, ça développe un particularisme au lieu de développer notre humanité commune. Ça, ce sont les terribles difficultés. Mais moi, je crois que plus on se rapprochera de l'abîme, plus il y aura la possibilité du sursaut, peut-être au dernier moment. C'est Hölderlin qui disait que là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Les gens n'ont pas assez conscience, ou plutôt, c'est comme dans cette fameuse chanson « J'y pense et puis j'oublie hein, » que chantait Jacques Dutronc. On pense à ça et puis on oublie. Dans la vie quotidienne, on est prisonnier du présent et du quotidien. Et malheureusement, ni nos politiques, ni nos intellectuels, ni nos philosophes ne travaillent à nous faire prendre conscience de ça. On est extrêmement rares à essayer de donner l'alerte. Et quelques-uns de ceux qui l'ont donné n'existent plus, comme Serge Moscovici, André Gortz ou René Dumont. Voilà, je suis un des dinosaures qui continue sur ce combat, mais qui, heureusement, a des adeptes un peu partout dans le monde. Mais on est trop dispersés, il y a trop de retard, mais c'est quand même, il faut, avec l'énergie du désespoir, continuer à essayer de donner conscience.
Alors, citoyen engagé, vous l'êtes toujours, Edgar Morin. Penseur qui essayait de trouver des solutions et des hypothèses, vous l'êtes encore, et heureusement pour nous tous. Pouvez-vous nous parler de la manière dont vous pensez ce problème qui devient de plus en plus préoccupant et que les chefs d'État ne savent pas véritablement traiter, celui des migrants? Pouvez-vous nous dire comment vous travaillez sur ce problème des migrations?
Je fais une réflexion sur une notion assez répandue qui est le seuil de tolérance. Et on pense qu'une communauté donnée ne peut pas tolérer un certain pourcentage d'étrangers qui viennent. Alors là, je crois que c'est un seuil de tolérance qui n'est pas physique ni biologique, il est psychologique. Je me souviens, quand il y a eu le désastre de la France en 1940, la moitié de la France, c'est-à-dire près de 20 millions de Français du Nord, ont dégringolé dans le Sud. Et pendant un mois, ils ont été accueillis, nourris, etc., avec quelques excès, mais aussi avec beaucoup de bienveillance. Aujourd'hui, la France a des visages complètement désertés, des maisons abandonnées, des terres abandonnées. On voit très bien qu'on pourrait se débrouiller. Et en plus, on pense que beaucoup de métiers que les Français ne veulent plus peuvent être occupés par ces gens-là. Et en plus, il y a des élites intellectuelles qui peuvent apporter leur contribution. Je vois que Jordi Savall, qui a fait un orchestre de musique médiévale, il a ouvert, élargi son orchestre à des artistes syriens, libanais et autres. Plus arrivent des médecins, des artistes, des ingénieurs, plus c'est bénéfique. Voilà. Il y a une première chose, c'est le pseudo-seuil de tolérance. Il dépend surtout de notre mentalité. Ou bien nous sommes bienveillants, nous sommes accueillants et nous sommes ouverts, ou bien nous nous fermons. Il y a deux choses, il n'y a pas seulement l'accueil et surtout les choses d'urgence qui ne sont pas à faire aujourd'hui parce que le grand flux migratoire s'est arrêté en 2015. Aujourd'hui, il continue à arriver du Soudan, un peu d'Afrique, des migrants de famine, de guerre comme au Soudan, mais le grand flux est arrêté. Donc on agite toujours l'arrivée massive des migrants alors qu'il n'y en a plus depuis 2-3 ans. J'ajoute qu'il y a aussi une chose à faire, c'est que dans des pays, notamment africains, il y a beaucoup de petits paysans qui vivaient plus ou moins de leur polyculture avec une certaine autonomie, sont été chassés, expulsés par les grandes sociétés qui font de la monoculture industrielle, et pas pour les pays de cette monoculture, pour les pays financièrement. Enfin, c'est pas seulement les pays occidentaux, c'est la Chine, c'est la Corée, tout ça. Donc on exploite l'Afrique et on prive les pays africains de l'autonomie vivrière, qui est un des biens les plus précieux. Et je pense qu'il y a un néocolonialisme, un postcolonialisme économique qui crée cette misère et qui pousse à fuir. Donc il faut transformer la politique des pays riches, des pays sur ces pays-là, provoquer une décolonisation pour qu'ils puissent acquérir cette autonomie vivrière. Par exemple, au Maroc, que je connais un peu, les paysans ne produisent plus de blé parce qu'ils importent le blé français qui a des subventions de l'Europe, meilleur marché que le... Ce qui fait que le Maroc se trouve privé d'autonomie en ce qui concerne cette céréale essentielle pour le couscous et pour le pain. Donc, vous voyez, il y a deux choses à faire. Nous, l'accueil, et deux, changer la politique à l'égard de ces pays.
Alors, Edgar Morin, on a parlé de quelques-unes de vos facettes, le philosophe, l'anthropologue, le sociologue, le scientifique, le voyageur. On n'a pas parlé du cinéaste, parce que vous avez fait aussi du cinéma. Vous avez fait avec Jean Rouch un film merveilleux qui s'intitule « Chronique d'un été », qui a été récemment restauré, qui était un film tout à fait novateur. Hein. D'ailleurs, c'est vous qui avez inventé plein de concepts que nous utilisons aujourd'hui dans notre vie quotidienne, sans savoir que c'est vous qui les avez inventés. Nouvelle vague, par exemple, c'est vous qui l'avez inventé.
Non, c'est l'Express.
Ah, c'est l'Express. Bon, qu'est-ce que vous avez inventé d'autre ?
Le yé-yé.
Ah, le yé-yé, mais d'autres choses encore.
Oui, je ne sais plus.
Bon, bref, toujours est-il que dans ce film, qui était une nouvelle manière de faire du cinéma en interrogeant les gens sur ce qu'ils ressentaient au plus profond d'eux-mêmes, il y avait cette question lancinante qui revenait, c'était « Êtes-vous heureux ?» C'est une question que vous posiez aux différentes personnes qui participaient au film, dont notamment Marceline Loridan, qui a récemment disparu. Alors moi, je vous pose la question, êtes-vous heureux aujourd'hui, en fin 2018 ?
Il y a deux types de bonheur. Il y a des moments heureux, fugitifs, un beau paysage, un coucher de soleil, un vol d'hirondelle, un beau repas entre amis, comme celui qu'on vient de faire. Enfin, il y a des choses, des moments heureux dans la vie. Et puis, il y a des périodes heureuses qui peuvent durer plus ou moins, mais qui ne peuvent qu'être provisoires, parce qu'il y a toujours soit la dispersion de ceux qui étaient heureux parce qu'ils s'aimaient, soit la mort. Moi, j'ai vécu des périodes heureuses. Cette année, rue Saint-Benoît, on formait une communauté avec mes amis. J'ai vécu aussi en Toscane des périodes heureuses, toujours avec ce caractère de communauté et de jouissance dans une nature. J'ai même des moments intenses que j'appelle des extases de l'histoire, comme la libération de Paris, comme le printemps à Lisbonne où j'étais, comme la chute du mur de Berlin. Enfin, mais je ne sais pas ce que c'est qu'une vie heureuse. Et je pense que ce n'est même pas possible parce qu'on ne peut pas éviter les chagrins, les séparations, les morts. Moi, si vous voulez, d'un côté, je me sens bien de continuer mes activités, de continuer à vivre, de continuer à aimer, de continuer à avoir des amitiés, de continuer à être moi-même, mais en même temps, que de douleur de voir disparaître les uns après les autres des amis très chers. Tout ça, ça a commencé depuis des années 80, ça fait quand même, voilà, et encore récemment, mon ami Florence Malraux. Donc, si vous voulez, la question que je me pose, c'est est-ce que je sauve la part poétique de ma vie ? J'essaye de sauver la part poétique de ma vie. Et c'est elle qui me donne des épanouissements qui sont des moments ou des périodes de bonheur. C'est ça, je crois. Pour moi, le bonheur est subordonné à ça. C'est-à-dire plénitude intérieure et communauté et amour avec autrui. C'est ça, le fond de tout.
Vous n'aimez pas être pris et considéré comme un maître, Edgar Morin. Cependant, à l'intérieur de votre œuvre, il y a plusieurs thématiques qui nous permettent de mieux vivre. Il y a justement la résistance permanente, l'éveil vers la réalité, la lucidité, l'absence de mensonges, la croyance dans les valeurs républicaines. Et puis, il y a l'approche assez tranquille de la mort. Vous l'avez dit dans une émission précédente, vous avez publié un livre sur la mort, vous étiez très jeune. Aujourd'hui, vous avez 97 ans. D'ailleurs, vous avez été le premier intellectuel à parler de la mort. Aujourd'hui, vous avez 97 ans, vous êtes dans une forme olympique. Sur quoi travaillez-vous en ce moment ? Et qu'espérez-vous vivre encore ?
J'ai rédigé des souvenirs un peu en vrac. J'ai écrit pas mal de choses un peu autobiographiques, comme autocritiques, mais toujours sur le plan de mon évolution intellectuelle. Et là, cette fois, c'est beaucoup plus mes émotions, mes rencontres, mes relations personnelles. C'est ça que j'ai fait dans les souvenirs, qui ne sont pas des mémoires chronologiques, qui sont sortis en vrac. Un souvenir, on évoque un autre, on évoque un autre. Et je suis en train de corriger tout ça parce que j'écris un peu dans le désordre. Voilà. Ça me plaît beaucoup parce qu'en même temps, je retrouve des gens que j'ai aimés. À travers ça, je leur donne une autre vie posthume, si vous voulez, parce que en plus des personnes très connues que j'ai connues, j'ai connu des gens extraordinaires qui sont inconnus. Et les faire connaître, je trouve que pour moi, c'est plus qu'un devoir, c'est une joie. Donc, je fais ce livre à la fois dans le rire et dans les larmes. Et puis, il se trouve que quand j'étais à Bordeaux récemment, vous avez fait allusion sur mon intervention, j'étais avec Jeanne Godal, cette femme extraordinaire. J'ai fait un discours sur la fraternité. Et là-dessus, je suis en train de le reprendre pour faire une petite brochure, une sorte d'appel. C'est vrai qu'à mon âge, j'ai besoin de repos. Mais je ne peux pas me reposer entièrement, je meurs. J'ai besoin d'activité et d'alternance avec du repos. Alors, la mort. Il y a deux choses aussi que je voudrais dire. La première, c'est qu'effectivement, avec mon sentiment, chaque fois que je me sens participer à quelque chose, chaque fois que je sens que je ne suis pas isolé, que je suis dans un mouvement, les angoisses de mort sont refoulées. Ce n'est pas qu'elles disparaissent, elles sont refoulées. Et j'ai des moments où effectivement je sens un grand vide. Je sens un grand vide en me disant « Ah, mais mon moi, mon je vont disparaître. Ce n'est pas mon corps qui va disparaître, c'est mon je. L'univers qui va disparaître en même temps que moi. » Mais ce sentiment, il arrive, il disparaît, il est repris par refoulé à nouveau. Et si vous voulez, je continue à avoir des projets. Bien entendu, je ne sais pas si je passerai la nuit prochaine, on ne sait jamais, on ne sait rien. Mais je vis dans un devenir. Les choses auxquelles je crois, je vais continuer à porter ma contribution. Ma contribution à la conscience écologique, ma contribution à sauver un petit mon minuscule rôle pour l'humanité. Parfois, j'ai tout en ayant la conscience de mon âge, je sens que je suis resté d'abord un être infantile qui aime beaucoup le jeu, un reste adolescent qui, comme je vous l'ai dit, a gardé ses aspirations sans illusion, un petit peu adulte parce que j'ai pris quelque sens de la responsabilité, et puis qui essaye de tirer de son expérience de l'âge un peu de sagesse, mais pas trop, parce que je sais qu'il y a sagesse pure, c'est une forme de la folie, qu'il faut mélanger toujours la raison et la passion, la sagesse et la folie. Voilà, c'est ça mes maximes principales.
Ben merci beaucoup Edgar Morin, l'indiscipliné.
Merci à vous.
Si le monsieur dort dehors, c'est qu'il aime le bruit des voitures. S'il s'amuse à faire le mort, c'est qu'il joue avec les statues. Et si un jour il a disparu, c'est qu'il est devenu millionnaire. C'est qu'il est sûrement sur une île avec un palmier dans sa bière. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Si la voisine crie très fort, c'est qu'elle a pas bien entendu. Si elle a du bleu sur le corps, c'est qu'elle a joué dans la peinture. Et si un jour elle a disparu, c'est qu'elle est partie en lune de miel. En attendant les jours de pluie, elle met ses lunettes de soleil. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Si les hommes se tirent dessus, c'est qu'il y a des vaccins dans les balles. Et si les bâtiments explosent, c'est pour fabriquer des étoiles. Et si un jour ils ont disparu, c'est qu'ils s'amusaient tellement bien. Ils sont partis loin faire une ronde, tous entrés, main dans la main. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien.
Et nous venons d'entendre Aurel San et son titre « Tout va bien ». Merci à Nicolas Bouchot pour sa lecture et à Ihab Radouane pour sa musique originale. Merci aux éditions Robert Laffont qui publient ces jours-ci dans la collection bouquins sous le titre « L'unité d'un homme », une partie de l'œuvre d'Edgar Morin dont ce texte intitulé « Autocritique ». Merci aux éditions du Seuil et merci évidemment à notre jeune homme, Edgar Morin.